Bonjour à tous. Nous sommes au cœur de l'été et nos cultes prennent un peu de liberté avec la forme classique et traditionnelle. Ce matin, à la suite de Rachel, je vous propose un voyage historique et géographique qui va nous permettre, j'espère, de mieux situer nos vies au cœur du projet de Dieu pour l'humanité. Dans un premier temps, je vais vous proposer une vidéo d'introduction au livre de Daniel. Dans un deuxième temps, nous évoquerons le quotidien de Daniel et de ses amis déportés à Babylone et leur difficulté à s'adapter aux mœurs et pratiques d'une puissance païenne. Et dans un troisième temps, nous évoquerons quelques témoignages de ministres du culte chrétien qui, originaires d'autres cultures, éclaire la réalité du XXe siècle dans notre pays. Je donnerai également la parole après peut-être à Joséphine et Joseph pour nous éclairer également sur le choc culturel en arrivant dans notre pays, même si c'est déjà lieu. Donc c'est à la fin. Donc, je laisse la place à la vidéo sur le livre de Daniel.
Le livre de Daniel. L'histoire se déroule juste après la première attaque lancée par Babylone sur Jérusalem, où la ville et le temple ont été pillés et les Israélites envoyés en exil. Parmi eux se trouvaient quatre hommes de la famille royale de David. Daniel, qui est par la suite nommé Belshazzar, et ses trois amis que vous connaissez sans doute par leur nom babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce livre raconte leur lutte pour garder espoir alors qu'ils vivaient sur le territoire de leurs conquérants. La conception du livre semble assez simple, tout d'abord. Les chapitres 1 à 6 relatent des histoires autour de Daniel et de ses amis à Babylone, pendant que les chapitres 7 à 12 montrent les visions de Daniel concernant l'avenir. Cette configuration est d'autant plus intéressante qu'elle capte parfaitement avec la structure du livre, dont la langue est d'une autre particularité. Il commence donc en hébreu, la langue des Israélites, mais les chapitres 2 à 7 sont rédigés en araméen, une langue proche de l'hébreu, largement répandue au sein des empires antiques. Ensuite, dans les chapitres 8 à 12, il revient à l'hébreu. Cette conception montre que les chapitres 2 à 7 forment un ensemble cohérent, tout en soulignant l'importance des chapitres 2 à 7 pour la compréhension des derniers chapitres du livre. Voyons cela plus en détail. Le chapitre 1 pose les bases des enjeux en cours dans la première moitié du livre. Du fait de leur sagesse et autres aptitudes, Daniel et ses amis sont recrutés pour servir au palais royal de Babylone. Mais ils subissent des pressions pour vivre et manger comme les Babyloniens, ce qui reviendrait à violer les lois élémentaires de la Torah, soit à renoncer à leur identité juive. Ils refusent donc de céder aux pressions et choisissent de rester fidèles à la Torah, mettant de facto leur vie en danger. Mais Dieu les délivre et ils finissent même par être élevés par le roi de Babylone. Nous passons ensuite à la section en araméen, dont vous pouvez observer la superbe conception symétrique. Tout d'abord, le roi de Babylone a un rêve que Daniel est le seul capable d'interpréter. Il rêve d'une immense statue faite de quatre types de métaux, symbolisant une suite de royaumes dont la tête représente Babylone. Mais un énorme rocher vient frapper la statue qui se brise avant de se transformer en une gigantesque montagne. Ce rêve est le premier du genre dans la série des visions symboliques de ce livre, et il introduit le fil conducteur propre à toutes les autres. Daniel révèle donc que la statue représente une succession de royaumes humains arrivant à la suite de Babylone et qui répandront la violence dans le monde de Dieu. Mais le royaume de Dieu finira par affronter les royaumes arrogants de ce monde et les humilier afin de répandre dans le monde la justice réparatrice propre règne et à l'autorité de Dieu. Ensuite, le chapitre 3 raconte la célèbre histoire des trois amis de Daniel qui refusent de s'incliner pour adorer une immense statue érigée en idole qui, tout comme la statue du chapitre 2, représente le roi et son pouvoir impérial. En représailles, les trois amis se retrouvent persécutés et sont jetés dans une fournaise à pain. Mais Dieu les délivre de la mort et ils sont élevés par le roi qui reconnaît désormais leur Dieu comme le vrai Dieu. Nous passons ensuite à deux histoires sur deux rois babyloniens. Le père Nebuchadnezzar, puis le fils Belshazzar. Ils sont tous les deux remplis d'orgueil à cause de leur puissance impériale. Et exactement comme au chapitre 2, Dieu les avertit tous les deux à travers des rêves et des visions que seul Daniel peut interpréter. Il invite les deux rois à s'humilier devant Dieu, mais tous les deux résistent avec arrogance. Nebuchadnezzar est alors frappé de folie au point qu'il devienne semblable à une bête des champs. Mais quelques temps après, il finit par s'humilier devant Dieu et retrouve son humanité pour ensuite redevenir roi. A l'inverse, son fils Belshazzar ne s'humilie pas devant Dieu et est assassiné la nuit même de son avertissement. En fait, ces deux histoires se basent sur l'imagerie de Genèse chapitre 1 et 2 et du psaume 8, où les humains sont dépeints comme l'image royale de Dieu. Il leur a donné l'autorité pour régner sur les bêtes des champs et les oiseaux du ciel en son nom à lui, le véritable roi du monde. Mais quand les royaumes humains l'oublient, se rebellent et se prennent pour Dieu, à cause de leur puissance, ils se rabaissent bien au-dessous de leur humanité pour devenir comme des bêtes sauvages qui devront faire face à la justice de Dieu. Nous passons ensuite au chapitre 6, qui va de pair avec le chapitre 3. Et cette fois, c'est au tour de Daniel d'être persécuté, car il refuse de prier et d'adorer le roi comme un dieu. Tout comme ses amis, il est condamné à mort et jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu le sauve des bêtes, et exactement comme ses amis, le roi élève Daniel et fait l'éloge de son Dieu, ce qui nous amène au chapitre 7. Il va de pair avec le chapitre 2 et le centre du livre, où tous ces thèmes se regroupent. Il s'agit d'un autre rêve, mais cette fois, c'est celui de Daniel. Et ironie du sort, il ne peut pas comprendre le rêve avant qu'un messager angélique ne le lui explique. Il voit quatre bêtes à la suite, une qui ressemble à un lion, une autre à un ours, la troisième à un léopard ailé. Chacune d'elles symbolise un royaume à Rome. Et pour finir, on découvre une énorme bête représentant un empire maléfique et qui est dotée de plusieurs cornes, un symbole de l'Ancien Testament faisant référence au roi. Une de ces cornes représente un roi arrogant qui s'élève au-dessus de Dieu et persécute le peuple de Dieu. Peuple symbolisé par une personne appelée le Fils de l'homme. Une image du peuple d'alliance de Dieu et de son roi issu de la lignée de David. Et subitement, Dieu, appelé l'Ancien des Jours, vient installer son trône. Il détruit l'énorme bête et élève le Fils de l'homme au-dessus des nuages, où il vient s'asseoir à la droite de Dieu et prendre part au règne de Dieu sur les nations. Avec du recul, on peut voir que toutes ces histoires de la première moitié du livre s'imbriquent parfaitement. Les trois histoires sur la fidélité malgré les persécutions sont censées donner de l'espoir au peuple de Dieu souffrant dans certaines nations. Ces peuples souffrent car les royaumes humains se sont rebellés contre Dieu et sont devenus de véritables bêtes. Ces visions appellent donc le peuple de Dieu à la patience. Ils doivent attendre que Dieu installe son royaume et son règne dans notre monde et défende son peuple qui souffre. Ce qui soulève la question de savoir quand Dieu va-t-il le faire? C'est donc la réponse que cherchent à apporter ces trois dernières visions. Au chapitre 8, Daniel a une autre vision des deux dernières bêtes du chapitre 7. Sauf que cette fois-ci, elles sont symbolisées par un bélier qui, dit-on, est l'image de l'empire des Perses et des Mèdes, puis par une chèvre qui représente la Grèce antique. Cette chèvre qui a tout un tas de cornes, dont l'une symbolise le roi maléfique du chapitre 7. Et on en apprend plus sur lui. Il va attaquer Jérusalem et s'élever au-dessus de Dieu, pour souiller le temple avec les idoles. Mais au bout du compte, il sera détruit par Dieu qui exaltera son peuple et son royaume. Alors, au chapitre 9, on voit un Daniel très anxieux de savoir quand toutes ces prévisions vont se manifester. Il consulte donc le livre du prophète Jérémie où Dieu dit que l'exil d'Israël ne durerait que 70 ans. Et pour Daniel, les 70 années étant quasiment écoulées, il demande à Dieu de tenir sa promesse dans les meilleurs délais. Mais un ange vient lui annoncer que le péché et la rébellion d'Israël vont perdurer, ce qui rallongera son temps d'exil et d'oppression qui, au final, sera 7 fois plus long que ce que Jérémie avait prévu. C'est donc un Daniel profondément perturbé qui tente de se ressaisir quand il a une dernière vision. On revoit une fois de plus la même suite de royaumes. Il s'agit de la Perse, puis de la Grèce d'Alexandre le Grand, suivi de rois moins importants. Ainsi de suite jusqu'au dernier roi du Nord qui envahira Jérusalem et érigera des idoles dans le temple pour s'élever au-dessus de Dieu. Mais subitement, le règne de ce souverain s'effondre. Alors les hypothèses découlant de ces visions ont fait l'objet de différents débats. Plusieurs personnes y voient un lien direct avec les agissements du roi syrien Antiochos autour de 160 avant Jésus-Christ qui a tué un nombre important de juifs à Jérusalem et érigé des idoles dans le temple. D'autres pensent qu'il s'agit du rôle joué par l'Empire romain dans l'exécution de Jésus et la destruction de Jérusalem et du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Tandis que d'autres encore pensent que ces prédictions concernent des événements à venir qui se dérouleront au retour de Jésus. Le problème est que les symboles et les chiffres ne correspondent pas tout à fait. Mais il y a matière à penser que dans un sens, ils ont tous raison. Le livre de Daniel a été conçu pour donner de l'espoir à toutes les futures générations du peuple de Dieu. C'était déjà le cas à l'époque de l'empire de Antiochos, et ça n'a pas changé depuis. Raison pour laquelle Jésus pouvait se référer à l'imagerie de Daniel pour décrire et confronter les leaders oppressifs à qui il s'est opposé à Jérusalem. Et c'est aussi pour ça que Jean, le visionnaire auteur de l'Apocalypse, a pu s'inspirer des visions de Daniel et les appliquer à la Rome de son époque et à tous les empires tyranniques africains. En somme, le but de Daniel est que toutes les générations de lecteurs puissent trouver dans ce livre un schéma et une promesse. C'est un schéma montrant que les êtres humains et leur royaume deviennent comme des bêtes sauvages quand ils se glorifient de leur propre puissance, quand ils redéfinissent le bien et le mal et ne reconnaissent pas Dieu comme leur vrai roi. Mais Daniel promet également qu'un de ces jours, Dieu écrasera la bête. Il sauvera son monde et son peuple en amenant son royaume sur toutes les nations. Au final, ce livre est pour chaque génération un message d'espoir qui devrait inciter à la fidélité. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Daniel.
Le débit est un peu rapide, mais la construction semble honnête, puisqu'elle évoque plusieurs points de vue d'interprétation possibles, et cela enrichit notre compréhension du projet de Dieu et nous rappelle, comme tout au long du message biblique, notre espérance qu'à la fin des temps, le règne de Dieu s'imposera et tous les régimes politiques autoritaires et répressifs seront vaincus. En attendant, entre notre naissance et notre fin de vie, Dieu nous demande d'être fidèles et obéissants à sa parole, quelles que soient les circonstances de notre contexte social, économique et politique. Revenons à Daniel, je vous invite à lire Daniel 1, des versets 1 à 21. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et de Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Joachim, roi de Juda. Époque troublée. Juda est sous l'autorité du pharaon égyptien. Le roi Joachim oppresse le peuple par une pression fiscale insupportable et pour se construire un palais pour asseoir son pouvoir et son autorité. Le peuple est lui-même à la dérive, à la recherche d'émotions et de spiritualité innovantes, loin du projet de Dieu. Lisons 2 Rois 17, les versets 7 à 14. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis des tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Ne ferez pas cela ». L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants et leurs guides. Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point. Ils raidirent leurs coups comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils n'écoutèrent point. Ce qui arrive aujourd'hui à Daniel est le résultat de ce que les générations avant lui ont vécu. Les compromissions des gouvernants du peuple d'Israël éloignent clairement le peuple de sa raison d'être, une bénédiction pour toutes les nations de la terre, un canal pour déverser la bonté de Dieu sur l'humanité. Les prophètes avertissent, il est temps de changer, mais ils n'écoutèrent point. La plupart du temps dans la Bible, lorsque Dieu avertit par la voix de ses prophètes et que les uns ou les autres, par un sursaut de lucidité, se repentent de leur mauvaise voie, la sanction ne tombe pas. Un message pour notre actualité du XXIe siècle. De nos jours, les scientifiques du climat avertissent. Qui écoute ? La surconsommation d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, de toute l'humanité entraîne un changement climatique suite à la libération de gaz carbonique CO2 dans l'atmosphère terrestre. Ce changement climatique génère naturellement un cortège d'événements météo extrêmes, incompatibles avec la vie humaine. Le message est pourtant clair. Changez vos habitudes de consommation irréfléchies, revenez à plus de sobriété et surtout, privilégiez la pérennisation et le partage des ressources naturelles pour que tout être vivant puisse exister et au final reconnaître la bonté du Dieu créateur. Revenons à Daniel. Le roi de Babylone envahit et occupe le royaume de Juda et puis Jérusalem. Daniel est sélectionné par un casting organisé sur des critères physiques et intellectuels pour être exilé de force à Babylone, au service de la cour de Nebuchadnezzar. Il va faire l'objet d'un véritable lavage de cerveau, initié par un changement de nom. Daniel sera désormais appelé Belshazzar, pour lui faire oublier qui il est et écraser les valeurs que ses parents lui ont transmises. Cela rappelle les pratiques de la christianisation par la colonisation, où les autochtones étaient amenés à se trouver ou de choisir un nom du calendrier occidental, ce qui fait que dans la société africaine, à côté de Pierre-Jean, on trouve également des fêtes là. Vous avez ça dans le chat ?
Oui, tout à fait.
Nous apprenons dans le calendrier, le 14 mai, c'est marqué fêtes là. Ah, c'est un nom du calendrier, il y a tout à l'heure un fête là. Non, mais voilà, pour vous montrer les dérives de certaines pratiques colonialistes. Bon, stage intensif de Galdéens avec au menu une nourriture royale arrosée du meilleur cru du royaume de Babylone et probablement des activités au quotidien en opposition complète avec une pratique personnelle d'une spiritualité en relation avec le Dieu vivant d'Israël. Nous remarquerons que même si la société dans laquelle Daniel vivait à l'origine partait à boulot, dans l'idolâtrie et la révolte contre l'Éternel, il existait toujours quelques individus qui ne partageaient pas les mœurs et pratiques de l'ensemble de la population, comme décrit précédemment. Par exemple, pour illustrer le temps d'Élie, dans sa confrontation avec Achab et Jézabel, il croyait être seul, mais dans le pays, beaucoup d'autres ne se livraient pas à l'idolâtrie. Daniel prend son courage à deux mains et demande au chef des eunuques en charge de l'assimilation à la culture babylonienne un régime spécial. Ce régime concerne en particulier la consommation des viandes. Pour un Israélien, la consommation de plats ou de préparations culinaires qui ne respectent pas les interdits et les tabous alimentaires de la loi juive le rendait impur. Ces lois et réglementations, en particulier l'interdiction de la viande de porc, le mélange de produits lactés et de produits carnés, ainsi que la méthode de mise à mort de l'animal pour qu'il devienne un aliment pur, devaient être strictement observés. Ces lois étaient destinées à rappeler la particularité et l'appartenance au peuple descendant d'Abraham, choisi par Dieu. Le respect au quotidien de ces réglementations donnait un fort sentiment d'appartenance à une communauté dont Dieu devait être la référence dans tous les aspects de la vie, et pas seulement autour de la table. Pour Daniel et ses amis, seule solution, le repas végétarien et une eau pure. Voilà. Fini les acides gras saturés, les vins alcoolisés et l'excès de sucre et de sel. Une vraie cure de désintoxication et au bout de 10 jours déjà, avec peut-être un peu d'activité physique au lieu et place de la sieste digestive après un repas trop riche, donne une bonne tête et un bon teint à Daniel et ses amis. Revendiquer et affirmer ses convictions et ses valeurs sont souvent bien entendus par notre entourage, que ce soit au sein de nos engagements sociaux ou au cœur de notre engagement professionnel. Jeune étudiant, ne participant que de loin aux festivités estudiantines, j'avais moi-même la réputation d'être un élément triste. Peut-être pas aujourd'hui, mais néanmoins une personnalité respectée. Génération après génération, malgré les tendances de la société qui, à ce jour, est encore dominée par sa révolte contre Dieu, il existe des individus, des groupes qui restent attachés à la parole de Dieu. Comme Daniel exilé, déraciné, conditionné à marche forcée pour devenir Belshazzar, son attachement à la parole de Dieu, cette relation personnelle dans la méditation et la prière dans son quotidien et son intimité lui permettent de refléter cette image de Dieu et devenir un élément qui empêche la corruption définitive et irrémédiable du genre humain. Malgré son régime alimentaire végétarien temporaire, le texte ne le mentionne pas, mais je pense qu'il n'aurait pas renoncé à une bonne préparation de bœuf ou d'agneau mijoté, comme il était de tradition à Jérusalem. Tous ceux qui ont vécu loin de chez eux, pour une période un peu plus longue, connaissent cette nostalgie pour un petit plat qui rappelle notre enfance. Daniel a vécu en exil forcé. Daniel a été contraint de changer de culture. Daniel a résisté au changement de religion. Fidélité et obéissance au Dieu d'Israël, au péril de sa vie. Daniel et ses compagnons refusent l'idolâtrie. Ils ne se prosternent pas devant la statue d'or élevée par le roi Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise ardente et ils en sortent indemnes. Des années plus tard, les rois se succèdent. Daniel continue de prier Dieu alors que son entourage complote auprès du roi pour interdire cette pratique. Il est dénoncé lâchement. Il finit dans la fosse aux lions. Les lions ont laissé Daniel indemne et la puissance du Dieu d'Israël a de nouveau été révélée et reconnue. Et voilà ce que proclame Darius en Daniel 7, des versets 25 à 27. De la fosse aux lions, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Dieu vivant qui subsiste éternellement. En son temps, Daniel a contribué à la prospérité de son pays d'accueil forcé et Daniel n'a pas été compromis dans l'idolâtrie orientale. Son appartenance au peuple de Dieu, son lien personnel avec le Dieu vivant d'Israël, lui a permis de contribuer positivement au projet de Dieu pour l'humanité. De nos jours, Dieu nous demande encore et toujours d'être fidèles et obéissants à sa parole. Rechercher la paix, rechercher la justice, vivre l'amour du prochain au quotidien. Chrétiens occidentaux en France, nous devons nous laisser interpeller par ceux qui ont un regard extérieur à notre culture et qui viennent nous encourager à partager notre foi. Un article récent paru dans La Vie, un hebdomadaire catholique, donne la parole à des prêtres africains, asiatiques et sud-américains affectés à des postes pastoraux en France. Je vais vous laisser quelques-unes de leurs réflexions qui nous interpellent sur le fonctionnement de notre société contemporaine, notre rapport à la pratique religieuse, les limites de notre pratique de l'Évangile au quotidien, en rapport avec l'amour de notre prochain. Une dizaine de citations que je ne commenterai pas, rassurez-vous. Donc c'est des Africains qui sont venus en France pour travailler au sein de l'Église catholique, mais on a des convictions communes avec l'Église catholique en ce qui concerne Jésus-Christ en particulier et l'Évangile. En France, la religion dérange. Les médias parlent mal des prêtres et l'Église est soumise à l'État. Je savais que c'était comme cela avant de venir, donc je ne suis pas surpris, mais cela fait quand même mal. Deuxième citation. Comme c'est pas la même personne qui parle, hein, c'est pris au sein d'un article avec plusieurs interventions. Comme tout Africain, je connaissais la France par ce qu'en montrent les médias. Les villes, les voitures, les belles maisons. Au lieu de cela, j'ai rencontré des gens tristes et mal dans leur peau. Les dérives de la société française actuelle sont bien pires que les amulettes d'Afrique. On rencontre peu de monde à la messe, mais lors des obsèques, des mariages et des baptêmes, on manque souvent de place dans l'église. Un autre témoignage, il est arrivé que je me retrouve seul avec le mourant. Dans mon pays, le Rwanda, c'est impensable. En France, on peut recevoir le baptême sans pratiquer. Ce n'est pas ce que les missionnaires nous ont appris. Aujourd'hui, le prêtre est souvent considéré comme un prestataire de service. On a même eu un autre exemple qu'on a des prestataires laïcs pour les cérémonies. Mais c'était le vœu de la famille pour les obsèques. Donc on a eu un prestataire laïque. Mais bon, des fois, certains utilisent aussi le prêtre comme un prestataire religieux. Je dois être français avec les français comme Paul est juif avec les juifs. Plus que des savoirs, les prêtres africains apportent une proximité humaine et un sens de la communauté contraire à l'individualisme ambiant. mur et rester enraciné. Et laisser du temps pour l'adaptation. Et pour finir, je viens comme chrétien à la rencontre d'autres chrétiens. Je vais donner la parole à Joséphine et Joseph pour une courte réflexion, pas trop long, hein, sur le ressenti et l'adaptation à la société française par rapport à une culture africaine d'origine. Pour résumer, comment avez-vous surmonté le choc culturel par rapport à ces réflexions? Donc je donne d'abord la parole à Joséphine. Venez d'abord. Venez d'abord. Après, si c'est le même temps pour vous.
Ouais. Mais... On va trouver quelque chose à dire. Donc, bonjour, c'est le plan.
Oui,
c'est ça. Ça fait
35 ans.
34 ans qu'on est ici. Et la plupart des citations qui sont que tu as lues, j'ai pensé également à pas mal de ces citations. Et la première chose, c'est que quand nous étions arrivés ici, la joie de connaître le Seigneur, malgré les difficultés, peut-être matérielles, ou en Afrique, où on a eu une joie de vivre, que quand on est arrivé, c'est une chose. Que malgré peut-être les biens matériels ou les réussites, les gens sont terriblement tristes. Ça, c'est mon constat. Et puis, on est intégré dans on est arrivé, puis on a trouvé tout de suite des communautés chrétiennes, donc on a rencontré des frères et des sœurs, et ça nous a permis de vivre notre foi. Et ce que je peux dire, c'est qu'on a appris qu'on connaissait bien des frères et sœurs européens déjà là-bas avant de venir, donc notre intégration, on a quelque chose culturel alimentaire, comme tu as dit, qui n'est pas forcément religieux, mais juste alimentaire, l'escargot au tchad, en grand nombre. Mais c'est considéré comme un aliment impur. Donc si vous le touchez, un petit, les moments où vous envoyez, vous lavez les mains au savon, plus de toi avant de vous toucher d'autres casseroles. Hein. Donc ça, quand on est arrivé, quand on a découvert, les gens pouvaient manger des escargots. Ah, c'était quelque chose, c'était inu pour nous. Donc ça c'est au niveau alimentaire, mais c'est pas religieux.
Je n'ai pas grand chose à dire, tu as tout dit. Pour moi, personnellement, c'est, on est arrivé en septembre, donc le froid déjà, je ne m'attendais pas trop. On vivait plus dehors. Quelqu'un va passer même très très loin, on va crier et voilà, donc on est expressif en fait. Et toujours souriante, et quand on fait à manger en fait, il faut prévoir grand parce qu'on ne sait pas qui passe et il y aura toujours à manger en fait. Et le fait d'être ici et de vivre que à l'intérieur et pas à l'extérieur, ça a été un peu difficile. Et de ne pas avoir cette communauté d'échange, ça a été aussi un peu difficile. Et puis, par exemple, le chocolat chez nous, ce n'est pas le même chocolat. Donc, moi, je pensais que c'était le chocolat de chez moi. Et quand j'ai mis dans la bouche, en fait, j'étais. Voilà. J'ai pris une tasse de café. Café chez nous, on fait bouillir, avec le sucre déjà. Donc, en fait, moi, je ne savais pas. Donc, j'ai pris le café et j'ai pris. Et en fait, voilà, je ne pouvais pas trop cracher, donc il fallait que je jambe. Et donc, voilà, on a appris, on observe et on a appris par nous-mêmes. Et puis, au niveau de l'église, le matin en tout cas, c'est impensable de trouver les chrétiens chez eux le dimanche matin. Et jusqu'à aujourd'hui, les retraités se retrouvent toujours à 5 heures, peut-être pas en vie. Ça a beaucoup changé, mais dans plusieurs régions, tous les retraités ou ceux qui travaillent librement au champ se retrouve à 5h du matin pour prier, intercéder pour les chrétiens du monde, pour les activités de l'église, pour les malades, etc. Et voilà, pour ça, moi je n'ai pas trouvé ça ici, donc il fallait s'adapter. Il y a plusieurs exemples, mais comme tu as dit qu'il faut faire court, je m'en
rappelle. Oui, je voudrais ajouter exactement l'intercession. Où les gens commencent à tourner très tôt dans les églises, partout, tôt le matin, tant de prières avant d'aller pour prendre des activités. Là, c'est quelque chose qu'on a plus inventé, mais qu'on a essayé d'adapter à notre récit. Autre élément concernant la société française, on a constaté que le prétexte de la laïcité est devenu, parce que la laïcité est devenue une religion. Au point que ça entraîne ou éloigne la population de la foi ou de l'essentiel. Et c'est comme si la population oublie l'histoire avant la Révolution, ou même les bâtiments, les monuments historiques, les églises, la population a oublié ses racines. Ça, c'est comme ça. Même le bâtiment, aujourd'hui, les églises sont sur les cours visites où les gens ne vont plus dans les églises. C'est un constat réel par rapport aux situations qui sont dans les. Je me retrouve pas mal avec cette situation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je vais vous donner pour votre témoignage. Pour conclure, le livre de Daniel fait partie de ces joyaux de l'Ancien Testament qui nous montrent à la fois ce que Dieu attend de ses enfants, là où il les amène à vivre leur vie. Ce livre nous montre également que Dieu règne, que les puissances agressives, que le pouvoir totalitaire ne fait pas partie du projet de Dieu, et que ces différentes parenthèses de l'histoire ne durent qu'un temps. Dieu est bon. À nous de le proclamer et de le vivre là où nous sommes, dans les circonstances qui s'imposent à nous. Soyons vigilants, comme Daniel et ses compagnons, pour ne pas nous compromettre dans l'idolâtrie ambiante, l'idolâtrie de la laïcité par exemple. Laissons-nous interpeller par nos frères chrétiens d'autres continents. Merci Joseph. D'autres continents, d'autres cultures, pour réellement nous imprégner du message universel de la parole de Dieu dans toute sa pureté, toiletté de toutes nos influences socio-culturelles. Le peuple de Dieu aujourd'hui est nombreux et multiculturel sur terre. Seigneur Dieu, que ton règne vienne. Amen. Amen.